Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la FRAPNA.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Et on commence encore une fois cette nouvelle saison des Chroniques du Hérisson en beauté avec un invité de choix, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'Alessandro Pignocchi, que j'ai eu la joie de pouvoir rencontrer avec le micro du Hérisson en marge d'un week-end de rencontre des Naturalistes des Terres, un collectif de naturalistes engagés dans la lutte active pour défendre la nature. Donc c'est une émission un peu spéciale, puisque comme ça avait déjà été le cas plusieurs fois pour de précédentes interviews, cet entretien va être divisé en deux parties, en deux émissions. Donc celle-ci, bien sûr, et la prochaine qui sera diffusée donc le mois prochain, toujours sur Fréquence 7, évidemment. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de Alessandro Pignocchi, ancien chercheur en sciences cognitives et en philosophie, qui est devenu entre autres auteur de bandes dessinées, on peut dire engagées, dans lesquelles tu interroges notamment les études anthropologiques de Philippe Descola et notamment le concept très occidental de nature. Donc bonjour Alessandro Pignocchi. Est-ce que ça te va comme description? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
On peut rajouter des choses, mais basiquement ça me va.
Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent importantes dans ton parcours que tu préfères mettre en avant?
Ça peut être plein de choses, c'est marrant parce que là on était en train de discuter avec Virginie Maris qui elle défend l'utique. Il faut sauver le concept de nature et continuer à l'employer. Mais bon, bref, c'est assez...
D'accord.
C'est un peu des débats philosophiques, pas forcément fondamentaux dans une période, dans le genre de période qu'on est en train de traverser. Non, peut-être que je viens du milieu plutôt universitaire et j'ai eu une espèce de choc de réalité qui a entraîné une entrée en militance, disons, par la rencontre de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a été comme choc que ça a fait à beaucoup de gens, mais qui, moi, a été vraiment une sorte de révélateur où les idées que je travaillais jusque-là de façon très théorique, notamment à travers les écrits de Philippe Descola, d'un coup ont pris une réalité charnelle et tangible qui a quand même été un marqueur dans mon existence récente, disons.
Parce que ce concept de nature, du coup, tu disais que tu t'en débattais il y a encore quelques minutes. Si on peut juste en dire un petit mot sur le concept de nature.
C'est que il a une histoire longue, effectivement, et c'est ce que rappelle Virginie Maris, et elle a raison, et il n'a pas toujours voulu dire, il a 2000 ans d'histoire, il n'a pas toujours voulu dire ce qu'il veut dire aujourd'hui, mais en tout cas, dans une certaine partie de la littérature, on l'associe au rapport occidental moderne, construit, enfin solidifié depuis 2 siècles, qui considère l'ensemble... qui regroupe un ensemble d'êtres et de phénomènes et d'entités extrêmement disparates. Donc l'ensemble des animaux, des plantes, des milieux de vie, des phénomènes sous un concept unique qui, en les regroupant de la sorte, les objectifie, c'est-à-dire en fait des objets dépouillés d'intériorité, dépouillés d'intérêt propre, et dont la seule existence est justifiée par l'usage qu'en font les humains, et on entretient avec eux un rapport unidirectionnel de pure utilisation. Et c'est une façon de faire qui est très particulière à la modernité occidentale, et ça a été plus classique à l'échelle de l'histoire de l'humanité, d'entretenir avec les êtres de ce que nous on appelle la nature, notamment plantes et animaux, des relations davantage bidirectionnelles, davantage résonantes, où on tient spontanément compte d'une façon ou d'une autre de leurs intérêts, et où on engage des formes de résonance empathique avec elles et eux, et on est un certain nombre à penser aujourd'hui que pour espérer sortir par le bon côté de la crise écologique, il va falloir réveiller ces affects d'attachement-là que la modernité a effacés et qui sans doute nous manquent. C'est-à-dire que l'idée politique derrière, c'est qu'il y a le monde très sec, affectivement, qu'a construit la modernité occidentale, où l'ensemble des êtres non humains qui nous entourent sont de la pure matière à exploiter, et un monde assez triste, assez affectivement pauvre, et que l'idée de réactiver nos capacités d'attachement, nos capacités empathiques au-delà de l'humain, qui encore une fois ont été fondamentales dans l'histoire de l'humanité, ont vraiment contribué à nous faire constituer évolutivement nos esprits d'humains, que cette sociabilité au-delà de l'humain nous fait défaut, nous manque, à laisser un vide et qu'une part de l'état de dépression chronique dans laquelle un certain nombre d'urbains notamment se trouvent vient en partie, pas évidemment la seule raison, mais en partie de cette espèce de carence chronique dans laquelle on est tous plongés vis-à-vis des attachements au-delà de l'humain, et que donc il y a une puissance politique dormante qu'il s'agirait de réveiller. Les naturalistes des terres se donnent cette mission-là toutes les formes d'attachement affectif, empathique, avec les milieux de vie, les territoires nourriciers et l'ensemble de leurs habitants non humains.
Et ça passe déjà, je pense, il me semble, par le fait d'accepter qu'on fait partie de ce monde, parce que peut-être qu'un des gros problèmes du concept de nature, c'est de considérer qu'il y a la nature d'un côté et la culture humaine de l'autre, et donc nous, de nous exclure de tout ce qui nous entoure.
Certes, mais formuler comme ça, le problème que ça pose, c'est qu'on a l'impression que c'est un problème d'idées. Il faut faire attention sur ces questions-là, de ne pas verser dans l'idéalisme et de croire que les problèmes politiques viennent de mauvaises idées et qu'en changeant les idées, le problème vient des institutions. C'est-à-dire que des institutions, notamment économiques, et du capitalisme, hein, sans surprise, qui a besoin de ce réservoir infini de ressources dans lesquelles on peut puiser sans aucun devoir de réciprocité. Et c'est la base de l'accumulation primitive. Et donc, tant que l'ensemble des décisions politiques sont soumises aux impératifs économiques, aux impératifs de croissance, et qui est l'économie qui est la force objectifiante par excellence, hein, un monde qui est dominé comme le nôtre par la sphère économique et un monde d'objets, puisque l'économie, pour fonctionner, a besoin que tout soit interchangeable selon les règles du marché, quoi, que tout soit, toutes les entités du monde puissent être écrasées sur l'axe unique de la valeur marchande, de la valeur d'échange. Et donc c'est là le blocage, c'est pas dans le monde des idées, disons. On pourrait tous changer nos idées si on reste dans des structures d'approvisionnement, des structures de et dans les structures économiques qui sont les nôtres, on peut changer nos idées autant qu'on voudra, nos façons de faire, nos comportements et nos affects ne se transformeront pas. Donc la base pour se sentir à nouveau appartenir à un tissu d'êtres humains et non humains liés affectivement les uns aux autres, c'est de reprendre du pouvoir politique sur la sphère économique, de retrouver au moins territorialement, au moins localement, la capacité de décider comment on organise nos activités productives, non plus selon des impératifs économiques, mais selon ce qui est collectivement désigné comme désirable, avec donc un collectivement qui idéalement inclut les intérêts des non-humains.
Oui, ce que j'allais te demander, quand tu dis « nous », tu inclus...
C'est ça l'objectif, c'est de réussir à construire un « nous » étendu au-delà de l'humain, avec l'idée que si on arrive à bâtir même de façon très marginale, des institutions qui permettent ce luxe-là, quoi, comme c'est le cas sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où les décisions des activités productives, de quel bois on coupe, sur quelle parcelle on met les brebis, et l'ensemble des décisions de la vie collective sur le territoire sont prises en tenant spontanément compte de ce qu'on imagine être les intérêts du bocage et de ses habitants non humains. Et du coup, l'idée, c'est que si on arrive à constituer de façon un peu plus étendue que sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais heureusement, il y a d'autres endroits où ça se produit, des institutions qui permettent aux humains de construire un nous qui inclut les vivants non humains, on libère de cette façon un ensemble d'affects, de plaisirs, de joies, de formes d'intensité de vie dont on a été à peu près entièrement dépossédé par la modernité. C'est des domaines de l'expérience humaine qu'on n'a plus l'occasion d'éprouver, dont on ne connaît plus les potentialités, mais qui, c'est ça l'hypothèse politique, qui sont encore là en puissance et qui peuvent être réactivés, et donc dans lesquels il y a une force politique dormante, disons, quoi.
Et pour connaître ses besoins, du coup, de ces êtres avec lesquels il est souvent difficile de communiquer, pour des raisons évidentes, à ton avis, il faut passer par la science, par le naturalisme notamment,
Certainement, mais disons qu'en tout cas, leurs besoins sont niés d'une façon si intégrale que dans un premier temps, on peut résoudre cette question de façon assez basique. Enfin, on voit bien que quels peuvent être à un niveau très basique les intérêts des vivants non humains sur un écosystème. Effectivement, qu'est-ce qu'un écosystème en bonne santé ? Quels sont les besoins d'un écosystème ? Si on rentre dans les détails de cette question, elle est vertigineuse, elle est très difficile à résoudre. Mais si on en était au point où notre problème politique majeur, c'était cette question-là, ça voudrait dire que quand même les choses vont déjà beaucoup mieux, quoi. Et dans un premier temps, en tout cas, on peut considérer de façon heuristique et basique, par exemple, que la diversité des relations est quelque chose qui est dans l'intérêt de l'écosystème, qu'une forêt n'a jamais tendu toute seule vers la monoculture, quoi, que quelque chose de divers, avec des interrelations très riches, tant entre les non-humains qu'entre les non-humains et les humains, et une multiplicité d'interrelations est globalement dans l'intérêt du milieu de vie, quoi.
Donc ce qu'il faut mettre en avant en premier lieu, c'est de l'affect pour comprendre ce qu'il y a de plus évident.
C'est pas pour comprendre, c'est pour essayer de trouver une force politique quelque part, quoi. C'est-à-dire que les projets politiques contre lesquels on essaye de se battre, que ça soit le capitalisme ou son prolongement fasciste, captent les affects humains, enfin certains affects humains, avec une efficacité redoutable, quoi. Le capitalisme... De courant, que ce soit la pulsion de consommation, le petit shot narcissique permis par le contexte compétitif, le fascisme vient rajouter un affect d'une efficacité terrible qui est le plaisir un peu malsain qu'on retire de voir une minorité qu'on nous a présentée comme menaçante se faire massacrer, quoi, en gros. Et là, le projet fasciste repose sur cet affect-là, de dire voilà, à une époque c'était le juif, aujourd'hui le musulman et dans une certaine mesure l'écologiste, les féministes, les trans, les assistés et quelques autres, et de dire voilà, on vous les construit comme bouc émissaire, comme minorité menaçante.
Tout ce qui compose l'altérité, en fait.
Voilà, une altérité qu'on présente comme menaçante pour nous, et on va leur en foutre plein la gueule, et vous allez pouvoir vous réjouir de ça en regardant la téloche, quoi. Et ces affects-là, malheureusement, sont ça. C'est des projets politiques qui vont puiser dans l'humus pulsionnel humain d'une façon redoutablement efficace. Et si on veut avoir la moindre chance de les contrer, il faut que nous aussi, on arrive à avoir une proposition qui ne soit pas que théorique, quoi. C'est évidemment essentiel de continuer à construire une critique articulée, théorique, conceptuelle de ces projets politiques pour montrer leur défaillance. Évidemment, il faut continuer à faire ça, mais il faut aussi avoir une proposition en face qui, elle aussi, propose des formes de joie, des formes d'intensité d'existence et qui parle aussi aux affects humains. Et donc, le pari qu'on fait, c'est que c'est dans les interrelations subjectivantes, les interrelations empathiques au milieu de vie, qui est encore une fois quelque chose qui a été fondamental dans l'histoire de l'humanité et qui a été effacé par la modernité. La modernité a vraiment nié ces attachements-là comme étant des sortes d'archaïsmes dont il fallait se débarrasser pour permettre au progrès technologique, scientifique, économique de se déployer sans encombre. Dans ces formes, la perspective de reconstruire ces attachements-là, il y a une force politique qui se base sur des affects humains suffisamment profonds, suffisamment puissants pour faire mouvement, quoi. Tu fais pas mouvement sans une perspective joyeuse au bout. Alors la difficulté, c'est que les affects sur lesquels jouent les projets dans le capitalisme, que son durcissement fascisme, c'est disons des sucres rapides, quoi. C'est quelque chose qui est immédiatement éprouvable, alors que ces joies-là, dans ces formes de plénitude, d'intensité émotionnelle que pourraient permettre de reconstruire des attachements, un peu des institutions qui permettent des attachements collectifs un peu plus riches au milieu de vie, tu ne peux pas l'anticiper si tu ne l'as pas vécu, quoi. C'est ça, c'est un des chocs que fait la ZAD, que produit la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est d'un coup de se retrouver dans un territoire certes petit, mais quand même suffisamment étendu pour deviner corporellement, charnellement, ce que ça fait d'être pris dans des institutions collectivement stabilisées qui permettent ce type d'attachement-là. Et donc là, c'est là la difficulté, c'est qu'on... On doit commencer à créer les dispositions territoriales qui permettent de commencer à goûter ces affects-là pour en vouloir plus, en gros, quoi, pour entrevoir, non pas sur le plan théorique, mais sur le plan incarné, vécu, ce que ça pourrait produire, un monde où, territorialement, on s'implique dans les façons de se lier au territoire, les activités paysannes évidemment, l'ensemble des activités productives, et d'entrevoir à quel point nos vies seraient plus pleines, plus riches, plus denses dans ce type d'institution-là que dans les institutions modernes qui nous dépossèdent à peu près complètement de tout ce qui touche à notre subsistance, à nos liens affectifs au territoire, à la façon dont les territoires sont des lieux qu'on contemple, où on s'horrifie, on s'indigne de ce qui s'y est fait, mais on ne se sent absolument pas impliqué dans les
les décisions qui les concernent. Et bien sûr, pour ressentir ces affects d'attachement-là, il faut avoir une forme de pouvoir politique sur ce qui se produit sur le territoire.
Alors tout ça est effectivement particulièrement intéressant. Malheureusement, le temps court et on va devoir arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pour cette première émission, puisque fort heureusement, Alessandro Pignocchi, on se retrouve le mois prochain pour la suite de cet entretien. En attendant, merci à toi et merci aussi évidemment à toutes celles et ceux qui nous écoutent et à qui je dis donc à dans un mois pour la deuxième partie de cette chronique du Hérisson.